Chapitre 14. Bébé Jack pleurait à nouveau. Il n'était pas dans son assiette et tenait à ce que ça se sache. « Il tient ça de moi, » dit Didi. Il était 21h. Jack ne s'était arrêté de pleurer que par intermittence depuis qu'elle était allée le chercher à la garderie où il avait apparemment passé une journée très difficile. Pas de fièvre, pas de régurgitation, mais il fronçait le visage, serrait les poings et moulinait des jambes comme s'il courait un marathon. Jusque-là, il lui avait donné des gouttes censées le soulager de ses gaz. Pas d'une efficacité phénoménale, ce truc, se disait Didi. « On pourrait appeler le pédiatre, » suggéra Alex, assis dans le canapé. Elle-même essayait de calmer Jack dans le rocking chair. « Et admettre que nous sommes dépassés ?» dit Didi. Alex la regarda bizarrement. « Nous sommes dépassés. Et nous ne serons pas les premiers jeunes parents à harceler leur médecin de questions au milieu de la nuit. Ils sont là pour ça, zut !» Le mouvement d'humeur d'Alex, inattendu, attira enfin l'attention de Didi. Elle remarqua ses cheveux grisonnants dressés sur sa tête à l'heure qu'il était. Les cernes sombres sous ses yeux. Ses traits tirés. Il avait une gueule de déterré, d'homme qui n'avait pas dormi depuis des années. Est-ce qu'elle-même avait aussi mauvaise mine? Maintenant qu'elle y pensait, Phil lui avait tapé 4 fois dans le dos aujourd'hui avec une compassion manifeste. D'un seul coup, elle comprit.
« Le bébé est en train de gagner !» s'écria-t-elle.
« Ça me paraît un bon résumé de la situation, » convint Alex avec lassitude.
« Il n'a que 10 semaines! Comment peut-il déjà nous dominer ?»
Alex regarda son fils qui braillait. « De la même façon que la jeunesse l'emporte toujours sur la vieillesse, capacité de résistance, vitesse de récupération.
« Nous sommes 2 grandes personnes, fortes, intelligentes, pleines de ressources. » Nous ne pouvons pas nous laisser vaincre par un nourrisson. J'étais persuadée qu'on tiendrait le coup jusqu'à ce qu'il ait au moins 17 ans et qu'il réclame une voiture. À propos, quand il aura 3 ans et qu'il voudra un téléphone portable, ce sera non. Et quand il en aura 5 et qu'il voudra son profil Facebook, même chose.
Alex la regarda, les yeux creux, les joues mal rasées. Entendu.
Tu savais que la principale cible des cyberpédophiles, ce sont les garçons de 5 à 9 ans?
Non. Alex n'en revenait pas.
Et si? C'est un grand méchant monde qui nous guette là-dehors. Et ce joli petit portable posé sur la table en contient plus qu'on ne l'imagine.
Alex passa une main tremblante dans ses cheveux. « Bon, ce n'est pas comme si j'avais prévu de dormir cette nuit. Ça vient de ta nouvelle affaire ?»«
Oui, je me fais seconder par une collègue de la Brigade des Mœurs, Hélène O. Elle est spécialiste de la cyberpédophilie, alors Phil et elle ont passé la journée à éplucher les rapports d'analyse sur les ordinateurs des 2 victimes et à échanger dans leur jargon. »
Un lien entre les 2 pervers?
Toutes sortes de liens. Mais l'ironie du sort, c'est qu'il y a tellement de points communs dans la liste de leurs sites favoris qu'on ne peut presque rien en tirer. La question n'est plus de savoir s'ils se sont croisés sur Internet, mais sur combien de sites, communautés et autres forums.
On en a pour un moment.
Neil examine toujours les photos?
Oui, malheureusement pour lui. Il a fini les 6 premières boîtes et il a déjà l'air d'un mort-vivant. C'est clair qu'il va avoir besoin d'un congé pour récupérer. J'ai voulu discuter avec lui aujourd'hui, mais il n'est pas encore prêt. Juste un sale moment à passer, il m'a dit.
Didi soupira, songea à son jeune coéquipier avec une réelle inquiétude et soupira de nouveau. J'admirerais presque sa naïveté.
Elle changea le petit Jack d'épaule, recommença à se balancer. À en croire les gémissements dans son oreille, le bébé ne se plaisait pas davantage sur son épaule gauche que sur la droite. Alex se leva. « Tu veux que je prenne le relais ?» Il montrait Jack qui pédalait comme un beau diable. Didi caressa le dos de son fils. Cela la contrariait de ne pas réussir à le calmer. Comme si c'était à la fois de sa faute et prévisible. La preuve qu'elle n'était pas suffisamment maternelle, qu'elle était aussi distante que ses propres parents. Sauf qu'elle ne se sentait ni froide ni dédaigneuse. Elle ne supportait pas que son bébé ne soit pas bien. Elle souhaitait plus que tout faire le bon geste, dire les bons mots, ce qui l'apaiserait. Jusque-là, ils avaient tenté de lui faire faire son rôle, de changer sa couche, de le bercer, de lui chanter une chanson, de marcher, de faire un tour en voiture. Peine perdue. Le bébé était en train de gagner, et ils étaient vieux.
« D'accord, » accepta-t-elle à contre-cœur.
« Et le rapport balistique ? » demanda Alex en transférant Jack de l'épaule de Didi à sa poitrine. « Quoi que ce soit qui permettrait de relier de manière probante le second meurtre au premier ?»«
J'ai un message !» annonça triomphalement Didi. « Laissé dans la poche de la première victime. Exactement le même texte. Tout le monde doit mourir un jour. Courage. » Exactement la même petite écriture serrée.
Alex en restait sans voix. Mais Jack, non.
Peut-être qu'on devrait encore essayer de faire un tour en voiture, proposa Didi.
Pas sûr qu'il soit prudent que l'un ou l'autre prenne le volant.
Didi en convint avec lassitude. Alex avait raison. Ils étaient abrutis de fatigue, ce qui expliquait qu'ils parlent boulot, c'était le seul sujet de conversation qui leur venait naturellement.
Le rapport balistique devrait arriver demain, murmura-t-elle. Avant ou après l'atterrissage de tes parents?
Merde!
Alex arrêta de faire les 100 pas avec le bébé.
Je n'étais pas censée te le rappeler. On devrait s'enfuir, dit Didi.
Elle ne pouvait pas faire face. Elle était trop fatiguée et son bébé la détestait. Jamais elle ne pourrait affronter sa mère par-dessus le marché.
Je pourrais aller les chercher, proposa bravement Alex.
Je passerai prendre Jack à la garderie, je ferai les présentations. Comme ça, si tu te retrouves coincé au bureau, ça ne sera pas un drame. Tu pourras toujours nous retrouver pour le dîner, quelque chose comme ça.
Ils ne me le pardonneront jamais.
Mais si, ils te le pardonneront. Tu es la mère de leur petit-fils. Et quand il ne braille pas comme un cochon qu'on égorge, c'est le petit garçon le plus mignon, le plus adorable, le plus intelligent qu'on ait jamais vu. Hein, monsieur ?
Alex leva Jack à bout de bras, le fit sauter en l'air et le rattrapa. Jack arrêta de pleurer. Il regarda son père, eut un hoquet, un deuxième. Encouragé, Alex le fit encore sauter légèrement. Jack atterrit entre les mains de son père, hoqueta à nouveau, puis dans un gigantesque roux, se libéra enfin des gaz qui encombraient son petit bidon, en rendant tout son dîner liquide sur le torse de son père. Alex se figea.
« Bon, au moins il ne pleure plus, » dit-il finalement.
Didi courut chercher des serviettes, des lingettes.
« Tu es le meilleur père du monde entier, » assura-t-elle à son compagnon en manque de sommeil.
« Pour la fête des pères, ce n'est pas une, mais deux cravates que Jack t'offrira, juré. »
Didi finissait tout juste de nettoyer et d'installer Jack dans son cosy quand son téléphone portable sonna. Elle consulta l'écran. Numéro caché. Ce qui, à une heure aussi tardive, pouvait signifier toutes sortes de choses. Par pure curiosité, Didi décrocha.
« Commandant Didi Warren ? Kimberly Quincy, agent spécial du FBI à Atlanta. Désolée d'appeler si tard. »«
Oh, » fit Didi.
« mais non, pas de problème. »« J'ai été en mission toute la journée, » reprit vivement Kimberly. « Je viens d'avoir votre message et je pensais vous rappeler demain, mais je me suis souvenu de la date. »«
Plus que 2 jours et demi avant le 21, » confirma Didi.
« Exactement. Je me suis dit que vous deviez avoir du nouveau si vous m'appeliez et que vous seriez contente que je vous rappelle le plus tôt possible. »
« J'ai rencontré la troisième de la bande, Charlène Rosaline Carter Grant. Je crois que vous la connaissez. »«
On peut dire ça ?»«
Eh bien, maintenant je la connais aussi. Comme vous le disiez, on est presque le 21. Charlie est sur le sentier de la guerre. Et en cas de défaite, elle voudrait que je me charge d'enquêter sur son assassinat. »«
Ah ?»«
Avec tout le respect que je vous dois, ça fait 10 semaines que je n'ai pas dormi. J'attendais un peu plus qu'un « A » de la part du FBI. »
Grosse affaire ?
Nouveau-né.
Fille ou garçon ?
Demanda Kimberly en s'animant.
Un garçon, qui crie, qui pleure, qui grinche. Magnifique. Moi j'ai 2 filles. Celle de 7 ans veut un téléphone portable. Celle de 4, un petit chien. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un coup de main pour votre affaire ? Je saute dans le premier avion.
Didi sourit.
Vous êtes censé me dire que ça devient plus facile avec le temps.
Ça passera. Élever des enfants apporte chaque jour plus de bonheur. Mentez-moi, un bon petit mensonge, c'est tout à fait ce qu'il me faut en ce moment.
Absolument, le meilleur est devant vous. Mais soit dit en passant, ne laissez jamais une gamine de 5 ans seule avec une corde à sauter et sa sœur de 2 ans. Et si votre mari travaille aussi souvent de nuit que le mien, achetez-vous tout de suite un lit extra large, parce que votre chambre risque d'être envahie par toutes sortes d'aliens.
Pas évident de caser un lit extra large dans les maisons qu'on construit à Boston.
Et pour ce qui est de la corde à sauter ? Si on veut être précis, la petite n'est restée ligotée que 10 minutes avant de comprendre qu'elle pouvait se libérer en se tortillant. C'est de la faute de mon mari. Il aime vivre en pleine nature. Alors il n'arrête pas d'apprendre aux filles des techniques qui font infailliblement fuir les babysitters.
Qu'est-ce qu'il fait, votre mari ?
Il travaille dans la police d'État.
Ah, donc vos filles ont 2 parents agents spéciaux, le FBI pour l'un et le JBI pour l'autre.
« Peut-être que ceci explique cela, » reconnut Kimberly.
Mon compagnon aussi est ancien enquêteur, et maintenant il enseigne l'analyse de scènes de crime à l'école de police. J'imagine que la première fois que Jack s'écorchera le genou, il ira d'abord chercher des plots pour matérialiser la scène de crime avant de sortir un pansement.
Mac emmène Elisa, notre aînée, au stand de tir. Il jure que dès la première fois, elle a fait un tir groupé de 3 balles dans la poitrine. On dirait que c'est dans les gènes de viser le tronc.
Votre fille de 7 ans sait se servir d'une arme à feu ?
On est dans le sud, ma belle. On aime bien nos armes.
Et moi, j'aime bien votre fille, lui assura Didi.
Moi aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous apprendre sur l'assassinat de Jackie Knowles ? Je suppose que vous avez lu le rapport de mon père.
Le rapport de votre... répéta lentement Didi avant de comprendre. Le consultant Pierce Quincy, l'ancien agent du FBI, c'est votre père ?
Voilà. C'est par ce biais que je me suis intéressée à l'affaire. En général, les simples homicides n'attirent pas l'attention du FBI, mais c'était mon père qui s'était livré à une première analyse de la scène de crime dans le Rhode Island. Il a observé que plusieurs variables se recoupaient entre le meurtre de Providence et celui d'Atlanta. Or, un tueur qui opère dans plusieurs états, c'est tout à fait dans les cordes du FBI.
Donc, pour vous, il ne fait aucun doute que les meurtres sont liés.
Difficile de penser le contraire, asséna Kimberley. Les victimes se connaissaient. Elles ont été assassinées exactement à 1 an d'intervalle par un individu qui s'est servi de la même méthode. Il y a un lien, c'est évident. Quel est-il, je l'ignore, mais il existe.
Votre opinion sur la 3e de la bande Charlène Blabla Grant ?
Je ne l'ai rencontrée qu'à 2 ou 3 reprises, et chaque fois elle était remontée contre les enquêteurs chargés d'élucider le meurtre de ses amis. Elle a beaucoup plus souvent été en relation avec mon père, et de manière bien plus cordiale. Il l'apprécie, mais reste réservée à son sujet. Même s'il semble qu'elle portait une affection sincère et passionnée à ses amis, et même si elle n'a cessé de plaider leur cause avec énergie, elle reste parmi les principaux suspects.
Voilà.
Un alibi pour le meurtre de Knowles ?
Sa tante affirme qu'elle se trouvait dans le New Hampshire le soir du 21. À midi le 22, quand elle a appris par la police locale que Jackie était morte, elle a pris un vol direct depuis Portland, dans le Maine. Son nom figure sur le billet, et on a pu confirmer qu'elle a pris ce vol Delta Airlines. Bref, un alibi convenable.
Il y a un « mais » dans votre voix.
Kimberley soupira.
La seule piste que nous ayons jamais eue dans cette affaire, c'est un voisin de Jackie qui prétend l'avoir vue rentrer à plus de 21h le 21 et qu'elle n'était pas seule. Elle avait ramené une amie avec elle, une femme avec des cheveux longs, bruns, plutôt menus.
Comme Charlène Grant, observa pensivement Didi,
qui se trouvait à 2000 kilomètres de là avec sa tante. Malheureusement, le voisin n'a vu la femme que de dos, donc ce n'est pas ce qu'on fait de mieux comme signalement, mais c'est tout ce dont nous disposons.
La scène de crime, relança Didi.
Propre, d'une propreté qui sautait aux yeux, les interrupteurs essuyés, les parquets lavés à la serpillière, les coussins au garde-à-vous sur le canapé. La cuisine, l'entrée, le séjour, tout était impeccable. L'assassin a pris son temps, il se sentait à l'aise dans la maison. Perfectionniste, méthodique, intelligent.
Puissant, ajouta Didi.
Strangulation manuelle, non ?
Oui, et mort par asphyxie. Donc de la force dans les mains. Mais là-dessus, je serais moins catégorique que les collègues de Rhode Island.
Ils considéraient la strangulation manuelle comme la preuve que l'assassin était forcément un homme. C'est peut-être le fait d'habiter dans le sud, mais j'ai vu assez de petites vieilles arracher le cou à des poulets pour avoir des idées moins arrêtées sur la question. Beaucoup de femmes ont une force non négligeable dans le haut du corps. Donc il me semble qu'une femme aurait pu le faire, surtout en agressant l'autre par derrière.
Et pourquoi pas cette amie que Jackie a ramenée chez elle ce soir-là ?
Vous avez enquêté dans les bars de la ville ?
Oui, les relevés de cartes de crédit nous ont appris où Jackie avait passé la soirée. Malheureusement, c'était à l'inauguration d'un nouveau bar. Quand nous leur avons présenté la photo de Jackie, plusieurs serveurs se sont souvenus de l'avoir vue ce soir-là, mais personne ne faisait très attention. La soirée d'ouverture était un succès monstre et ils ne savaient plus où donner de la tête.
Sa messagerie internet, le relevé d'appel de son portable.
Pas de contact récent avec une nouvelle amie, ni de rendez-vous noté sur son agenda. J'imagine que Jackie n'avait pas prévu de retrouver quelqu'un ce soir-là. Je pense que l'autre femme l'a abordé.
Après l'avoir suivi ?
Bonne question.
Et elle a convaincu Jackie de l'emmener chez elle.
Simple hypothèse, mais intéressante.
D'autant que Jackie aurait pu se méfier d'un homme après ce qui était arrivé à son ami Randy. Mais elle n'aurait pas eu les mêmes réserves avec une inconnue.
Selon ses proches, Jackie pensait que Randy avait été tué par son ex-mari.
Donc rien ne dit qu'elle était sur ses gardes de toute façon. Et puis, c'était le premier anniversaire du meurtre de sa meilleure amie. Elle se retrouve dans un bar, se sent probablement un peu seule, un peu le vague à l'âme. En s'y prenant bien. Et très joli, votre pull. Ça ne vous dérange pas si je m'assois? On discute un peu. On prend quelques verres. Jackie était une proie facile. Si on part du principe que notre tueur était une femme très douée pour la manipulation. Vu les deux scènes de crime, nous cherchons un individu très habile pour mettre les gens en confiance. Et il faut bien avouer qu'on ne peut pas en dire autant de tous les assassins. Didi hocha la tête, rumina cette idée. Cette affaire, qui n'en était même pas une, s'imposait de plus en plus à elle, commençait à l'habiter. Une énigme dans une énigme. Bon, si on résume, il nous reste 2 jours avant le 21, reprit-elle. L'action s'est déplacée à Boston, où vit le dernier membre du trio, Charlène Rosaline Carter Grant. Pas de doute, elle est sur ses gardes. Elle se promène avec un 22, elle court, fait du sport, potasse les techniques de la police scientifique et la criminologie, va jusqu'à prendre contact avec une enquêtrice. Je la vois mal ramener chez elle un nouvel ami, homme ou femme, le 21. Peu probable, convint Kimberley. Donc, notre tueur devra inventer un autre stratagème, murmura Didi, toujours songeuse. Que désire Charlène par-dessus tout? Comment ça? Si vous étiez un assassin et que vous vouliez attirer l'attention d'une victime qui a toutes les raisons de se tenir sur ses gardes, il faudrait lui faire miroiter quelque chose de si désirable, de si intime et de si irrésistible, que même cette paranoïaque de Charlène serait prête à faire fi de toute prudence rien que pour en apprendre davantage. Elle veut savoir qui a tué ses amis. Alors peut-être que l'assassin a la partie encore plus facile cette fois-ci. Elle n'a pas à faire semblant d'être quoi que ce soit. Elle peut se contenter d'être elle-même. Parce que c'est elle que Charlène veut plus que tout au monde. Elle détient toutes les clés sur les derniers instants de Randy et Jackie. Et quand un criminel vous a enlevé des êtres chers, c'est très difficile de tourner le dos à ça. Même si votre raison vous dicte le contraire, le désir, le besoin de savoir ce qui est arrivé à ceux que vous aimiez, c'est un levier très puissant. Je ne pourrais pas reprocher à Charlie de ne pas arriver à fermer cette porte. « Qui avez-vous perdu ?» demanda Didi avec tact. « Ma mère et ma sœur. » « Et si l'assassin vous contactait demain ?»« Il faudrait qu'il recourt au service d'un médium, » répondit impassiblement Kimberley. « Mais aujourd'hui, votre fille de 7 ans est capable d'en mettre 3 dans le buffet. » « Voilà. » Logique. Charlène se prépare physiquement, enchaîna brusquement Kimberley. Mais les méthodes de son assassin sont psychologiques. Il établit une relation intime, personnelle. À quoi bon courir le kilomètre en moins de 4 minutes si c'est elle-même qui ouvre la porte de son plein gré? Charlène n'a pas besoin d'être forte physiquement, elle a besoin d'être forte dans sa tête. C'est comme ça qu'elle survivra au 21. « Je donnerais bien un coup de pied dans la fourmilière, » déclara Didi. C'est-à-dire? Facebook, les réseaux sociaux. Je travaille avec une collègue qui est assez spécialiste de ces questions. On envisageait de créer une page Facebook avec des messages commémorant la mort de Randy et de Jackie, histoire de voir qui réagit. Kimberley médita cette idée. Et si vous laissiez fuiter des infos? Sur la scène de crime, vous voulez dire? De fausses informations, un rapport d'enquête criminologique, par exemple, qui ferait du tueur un portrait peu flatteur. Non, je retire ce que je viens de dire, qui mettrait en lumière une erreur. Notre assassin aime maîtriser la situation, n'est-ce pas? Il est soigné, ordonné, méthodique. Et si vous révéliez qu'il a laissé un détail lui échapper chez Jackie Knowles, un détail qui constitue aujourd'hui une piste possible dans le cadre de l'enquête, ça mettrait l'assassin sur la défensive, il commencerait à gamberger. On entrerait dans sa tête. L'arroseur arrosé. Une idée sur ce détail? Kimberley hésita. À votre place, je demanderai à mon père. Il connaît les 2 scènes de crime, il a été profileur. Tripatouillé dans le cerveau d'un criminel, il va adorer. Passez-lui donc un coup de fil. Merci. Je vous en prie, tenez-moi au courant. Surtout le 21. Ça marche. Bon courage avec vos grandes filles. Bon courage avec votre petit garçon. Les 2 femmes soupirèrent en chœur et raccrochèrent.